Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h08 de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous le samedi, le dimanche de 9h30 à midi. Toujours avec notre éditorialiste Christophe Cessieux, notre judoka David Douillet, tenniswoman Sarah Pitkowski, rugbyman Denis Charvet. Merci de votre fidélité, chers auditeurs. Antoine Dupont a-t-il perdu son brassard de capitaine? On se posera la question. C'est le bras de fer des GG dans quelques instants. Banalistons les performances de l'équipe de France de hand. La presse a vexé les Bleus après le match nul face à la Suisse. Nedim Remili sera dans la punchline des GG à 10h30. En une semaine, Cyprien Sarrazin est-il devenu une star? Nous ouvrons le débat à 11h dans la seconde des GG, le skieur français qui a remporté hier la mythique descente de Kitzbühel. Tout de suite, les gladiateurs entrent dans l'arène. On appelle ça la surprise du chef. Mercredi, Fabien Galthié a dévoilé sa liste des 34 joueurs pour le début du tournoi des 6 nations. Et sa principale surprise, c'est la nomination de Grégory Aldrit comme capitaine de l'équipe de France. Le sélectionneur a décidé de lancer une nouvelle ère en l'absence, surtout d'Antoine Dupont avec le 15 cette saison. Antoine Dupont, justement, a-t-il perdu son brassard? Avant de débattre, Wilfried Templier, la voix du rugby sur RMC, est avec nous. Bonjour Wilfried.
Bonjour tout le monde.
C'est Wilfried.
Alors pourquoi ce choix de Fabien Galthié, un choix que personne n'a vu venir?
Bah oui, personne, si ce n'est Grégory Aldrit, Charles Olivon, qui briguait aussi la fonction, quelques-uns, mais peu, dans leur club respectif qui étaient dans la confidence, et ce depuis plusieurs semaines de ce qu'on sait. Tout d'abord, Grégory Aldrit, il faut le dire, a avoué sa fierté, même si le sujet est pas évident à aborder, à la veille d'un match décisif de Coupe d'Europe. Écoutez.
Comme j'ai dit à Fabien, c'est un très très grand honneur, beaucoup de fierté. C'était un grand honneur d'être capitaine du Stade Rochelais. Ça allait aussi d'être capitaine du 15 de France. C'est juste magnifique. Je suis très content. Mais voilà, moi personnellement, pour le moment, je suis concentré sur mon club. J'évite de trop penser à tout ça et tous les à côté. J'ai beaucoup d'articles. J'ai pas tout lu, je vous avoue. Comme je dis, j'ai le match le plus important de la saison ce week-end avec le Stade Rochelais. Donc, concentré là-dessus. Comme je dis depuis le début, j'espère la victoire et ensuite je savourerai à partir de dimanche soir parce que avant lundi, je suis pas encore capitaine du 15 de France.
Ouais, on le précise, La Rochelle doit gagner à Sale demain pour être sûr de se qualifier pour les huitièmes de finale, donc c'est important pour lui. Une chose est sûre, alors que tout le monde attendait Charles Olivon dans ce rôle, Grégory Aldrit est allé rapidement s'enquérir de ce que pensait son coéquipier, lui-même premier capitaine de l'ère Galthié.
Ouais, bien sûr, c'était important de savoir où on en était tous. J'ai de suite appelé Charles pour en parler à lui. C'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien et c'est vraiment un joueur et un homme que j'apprécie. Donc voilà, c'était important d'en parler avec lui, mais il y a aucun souci là-dessus et je suis sûr que ça sera le premier à me soutenir.
Ouais, le soutenir, lui qui n'a été qu'une fois capitaine des Bleus l'été dernier, Grégory Aldrit, en amical face aux Fidji, un match où ni Olivon ni Dupont n'étaient sur la feuille. Dupont, justement, lui qui va louper ce tournoi pour se consacrer à l'équipe de France à 7. Qu'en pense-t-il? Ils sont très proches, Aldrit-Dupont, dans la vie, alors évidemment, il approuve.
Je suis très content que ça soit Greg et je suis pas du tout inquiet pour lui. Au-delà de lui, son rôle qu'il va remplir, il sera aussi très bien épaulé sur le terrain avec d'autres cadres qui sont encore là, avec des joueurs d'expérience autour. Et puis il a l'expérience aussi des matchs de haut niveau, que ce soit l'équipe de France ou avec La Rochelle. D'être double champion d'Europe, c'est pas rien. Il a mené son équipe deux fois à ce titre. Donc j'espère que ça lui portera chance pour arriver à un nouveau titre cette année, en bleu.
Oui, en bleu, il précise, le nouveau titre, sous-entendu, pas en jaune et noir. Mais Fabien Galthié l'a expliqué dans le Midi Olympique, il voulait qu'il y ait, je cite, un passage de témoin entre l'Afrique du Sud et l'Irlande, entre le dernier match du Mondial et le premier du tournoi. Mais le capitaine du dernier match, c'était Dupont. Doit-on y voir une passation de pouvoir entre Dupont et Aldrit? La question a presque pris de court Aldrit, qui en a pouffé avant de répondre.
Pour être honnête, je suis capitaine pour le match de l'Irlande et tout ce que tu dis, ça sera pour une autre histoire. Mais non, j'ai pas réfléchi à ça. Je pense pas que ce soit d'actualité. Je pense déjà pas à la semaine prochaine, donc je vais pas penser à l'après-tournoi.
Oui, il y a que des journalistes pour se poser ce genre de questions, évidemment, ou les grandes gueules du sport, au pire.
Oui, on peut nous faire confiance. Merci beaucoup, Wilfried Templier. Tu restes avec nous pour ce débat. Un débat qui va plaire, évidemment, à Fabien Galthié et Grégory Aldrit. Antoine Dupont, a-t-il perdu son brassard dans le coin gauche, la team? Oui. Christophe Cessieux, Denis Charvet, dans le coin gauche, la team? Non. Sarah Pitkowski, David Douillet, c'est le bras de fer des GG.
RMC.
À votre avis, c'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant?
Le bras de fer GG.
Vraiment, t'es sûr que l'éléphant, il est plus fort que l'hippopotame ?
C'est donc un 2 contre 2 dans les grandes gueules du sport. Ce bras de fer des GG, vous êtes nombreux à voter ce matin sur le compte Twitter de notre émission. Pour le moment, une vraie tendance se dégage. 33% pour le oui, il a perdu son brassard. 67% pour le non. Christophe Cessieux, Denis Charvet, vous les spécialistes rugby, vous êtes derrière. C'est à vous d'expliquer le métier aux autres. Christophe Cessieux.
Ah bon, c'est moi qui commence.
Vas-y, vas-y, on sait être compris.
Vas-y, le vieux. Arrêtez vos politesses, allez-y là.
Alors, je pense qu'il a perdu. Enfin, si j'étais Fabien Galthié, en tout cas,
tu n'es pas Fabien Galthié.
Il n'a pas les lunettes déjà.
Voilà, ça sent les rames. Et voilà, on y va.
C'est pour dire ça, de Grégory Aldrit. Mais vous savez qu'il est toujours très difficile de décrypter ce qui se passe derrière les lunettes les plus célèbres du rugby mondial. Je trouve en tout cas que ça ne ferait pas très sérieux de changer de capitaine. Déjà, c'est pas très sérieux ce qui se passe en ce moment. Tous les 36 du mois, tu chantes, t'as eu Olivon. Derrière, t'as eu Dupont. Puis de nouveau Olivon quand Dupont était blessé. Et puis maintenant, la Coupe du Monde est terminée. On enlève Olivon. Et comme Dupont est pas là, on met Aldrit. À un moment, il va falloir se calmer et essayer de garder un seul capitaine pour les 4 ans. Parce que on désigne un capitaine en début de mandat et on fixe un cap avec lui.
Le cap et le capitaine vont de pair.
Non, mais je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Je donne des conseils aux sélectionneurs. Voilà, c'est tout. Aldrit, en plus, est un joueur majeur du 15 de France, majeur et décisif. Pour moi, il est de la même trempe qu'Antoine, l'un des deux meilleurs joueurs du monde à son poste. Et tu ne peux pas jouer au yo-yo avec un joueur de sa trempe. Je comprends très bien qu'Antoine ait fait le choix de partir disputer les Jeux avec l'équipe de France de rugby à 7. Mais en même temps, il quitte le navire au moment où celui-ci tangue, hein, après l'élimination au quart de finale. Donc, un capitaine, normalement, ça quitte pas le navire. Là, en l'occurrence, il y a les jeux, et donc c'est pour ça que je le comprends. En fait, je comprends très bien son objectif. Malgré tout, les autres sont toujours là et les autres vont tenter de faire gagner le 15 de France. Donc, je pense qu'une fois que Aldrit sera capitaine, eh bien, il conservera son brassard de capitaine. Il parle en plus remarquablement bien anglais, étant moitié écossais, et on sait que Antoine a eu du mal à s'exprimer avec O'Keefe lors du match entre la France et l'Afrique du Sud. Donc, ça, c'est un plus. Donc, pour moi, il devrait garder le brassard de capitaine et il va le garder.
Ok, ce n'est pas un capitaine par intérim. J'ai Olivier Giraud, vous le connaissez, qui fait partie de notre bande, le handballeur, qui me dit, il m'envoie un petit texto, là, il me dit, je comprends pas votre débat, il faut un capitaine présent, point. Oui, mais nous allons plus loin, Olivier. Si vous aussi, vous êtes comme lui, vous ne comprenez pas ce débat.
On se projette, Olivier.
On se projette pour savoir si Antoine Dupont, il a perdu ce brassard de capitaine pour de bon. Lui qui était le capitaine durant la Coupe du Monde. Sarah, tu penses que non, il ne l'a pas perdu?
Non, il l'a pas perdu définitivement, déjà parce que dans le rugby, et la démonstration a été faite, le capitaine, il y a un turnover autour des capitaines beaucoup plus facile ou régulier. Alors le terme régulier, pas juste par rapport au foot, où finalement le capitaine au foot est quasiment toujours le même et celui qui se présente devant la presse. Au rugby, t'as aussi des capitaines, mais t'as aussi des leaders de vestiaire, beaucoup plus de leaders de vestiaire. Le choix aujourd'hui de Galthié, je les comprends, et pour les mêmes raisons que Christophe. Le fait qu'il parle anglais remarquablement bien, qu'il soit déjà capitaine dans son équipe au Stade Rochelet, il est quand même, en tout cas le Stade Rochelet est quand même en meilleure posture ou en meilleure confiance que Toulon. Donc déjà qu'il soit que Dupont soit remplacé par Aldrit plutôt que Charles Olivon, je trouve que déjà c'est un très bon signal. Mais ça ne veut pas dire que Aldrit...
Question d'âge aussi. Parce que
effectivement, autant Aldrit a plus de chances d'aller jusqu'en 2027 qu'Olivon. Ok, très bien. Mais pourquoi, de facto, tu mets Antoine Dupont de côté? Non, de toute manière, c'est un sport où il y a beaucoup de blessés. D'avoir plusieurs capitaines et d'avoir plusieurs leaders et qui peuvent endosser ce rôle-là. Au contraire, à un moment, ça peut aussi retirer de la pression pour un des deux joueurs. Il ne l'a pas perdu. C'est pour moi une solution supplémentaire.
Une solution supplémentaire, sauf que j'ai l'impression que vous niez le fait que, porter le... Grégory Aldrit l'a dit, porter le brassard de capitaine, c'est prestigieux. Ce n'était pas une histoire d'ego dans les sports, même les sports collectifs. Denis, tu veux prendre la main et après David.
C'est surtout pas neutre. Être capitaine, c'est un symbole. Surtout dans le rugby, peut-être plus que dans notre sport. Nous, on a besoin d'un capitaine, d'un leader, d'un gars qui nous amène.
Un leader de combat ?
Les deux, de combat aussi, oui, mais pas que ça. Mais pour faire un comparatif entre Antoine Dupont, capitaine, et Aldrit, c'est pareil, c'est le même acabit. Le seul truc, c'est que moi, pourquoi j'ai dit oui? J'ai dit que, en fait, c'est fonction du résultat du tournoi. Je pense que si on gagne le Grand Chelem avec Aldrit capitaine, ça va changer beaucoup de choses dans la tête de Fabien Galthié. C'est tout. La logique Aldrit soit capitaine maintenant, je trouve que c'est une logique implacable parce qu'il fait, c'est la fin d'un cycle, il redémarre un cycle. Et là, il met Aldrit. Je trouve que Fabien Galthié, il a fait le bon choix.
Je crois qu'il l'a fait avec l'analyse des data ou pas.
Mais attention, Aldrit, c'est un capitaine depuis qu'il est tout jeune. Dans toutes les équipes où il est passé, il a été capitaine. Il a manqué, je crois, une ou deux saisons parce que c'était Romain Sazi qui était le vieux, entre guillemets, de La Rochelle qui est capitaine pendant 3-4 ans. Mais il a repris le flambeau l'année dernière déjà. Et il est capitaine de La Rochelle. Et il a ça dans l'âme.
Mais je pense que tout le monde est unanime d'ailleurs. Hein. Tout le monde dit que c'est un super choix.
Moi, je pense que les absents, parfois, les absents sont toujours tort. Et que la suite du tournoi va donner raison ou à Aldrit ou à Antoine.
Est-ce que tu as déjà pris un judoka à 30 km/h? Pleine poire.
30, c'est pas très vite.
Parce que ça va.
T'inquiète pas, je vais arriver à 50.
Non, mais après, David Douillet veut te répondre. Attends, après,
je prends de l'élan là. Je prends de l'élan parce que vous m'énervez les deux Madame Soleil là, Christophe et Denis là. Ben oui, si on gagne le tournoi destination.
Si on gagne le Grand Chelem.
Et s'il fait froid, il va neiger, les gars aussi. Hein, tu sais, c'est pas très compliqué non plus. Non, mais moi, je trouve que votre conservatisme, il est affligeant. On n'est plus en 1950, on est en 2024. Aujourd'hui, en 2024, on réagit rapidement. L'essence même du haut niveau, c'est l'adaptation. Voilà. On en a un qui part aux Jeux Olympiques et c'est très bien. Il a fait un super choix. Et j'espère qu'ils vont claquer une médaille d'or. C'est génial. Moi, je suis hyper heureux. Il délaisse pour l'instant, momentanément. Je sais, momentanément, il se met en berne de l'équipe de France et du tournoi destination. Voilà, il y a rien de grave. Et puis quoi, c'est quoi le rôle d'un capitaine? T'as commencé à le décrire, Denis. Mais c'est avant tout, je crois, d'abord, beaucoup de crédibilité. Tu parles de symbole. Si Aldrit, c'est pas une grande star, tu m'expliques. Voilà, par exemple. Ensuite, bah oui, et Dupont sera toujours une grande star après son épopée olympique, et ça sera de nouveau un grand joueur de rugby pour le restant de sa carrière, c'est évident. Et il pourrait reprendre de toute façon son poste de pourquoi? Parce que il fait partie de ces éléments, même si la Coupe du Monde a été moins heureuse que ce qu'on aurait voulu. Ce sont des personnages qui sont crédibles aux yeux des autres. Et ce sont des personnages, en fait, et c'est ça le rôle essentiel pour moi d'un leader, c'est de générer une énergie, de représenter une énergie qui emmène toutes les énergies au plus haut et au plus fort.
On parle la même chose.
Bon.
Je parle la même chose que toi.
Ben, donc, pourquoi Antoine Dupont ne serait plus capable de le faire après son épopée olympienne? Tu peux m'expliquer?
Alors, je vais te dire. Alors, moi, je vais te poser une question. Si Aldrit, par exemple, dans son rôle de capitaine, est très bon avec les arbitres, négocie bien avec les arbitres, et gagne le Grand Chelem, tu crois que Fabien Galthié va pas se poser la question de le maintenir?
Attention aussi à ce qui a été dit, et je sais pas si vous avez remarqué le petit tacle que Joël Judge, le patron des arbitres mondiaux, a mis à Antoine Dupont il y a quelques jours, après que celui-ci ait critiqué vertement l'arbitrage de O'Keefe lors du dernier match entre la France et l'Afrique du Sud.
Ça peut jouer.
Pense que ça peut jouer parce que les arbitres, c'est une corporation. Ils sont très corporatistes. Dupont a tapé sur la tête de l'un d'eux. Il a critiqué.
Il n'a pas tapé.
Écoute ce qu'a dit Joël Judge.
Joël, il a dit je ne lui en veux pas, mais
je ne peux pas porter.
La réaction d'Antoine, elle n'est pas. Excusez-moi, après le quart de finale, il ne faut pas juger.
Tu connais les arbitres mieux que moi, Denis.
Et les copains, vous connaissez les arbitres mieux que moi. Vous êtes en train de nous expliquer.
Avoir une influence. Voilà.
C'est gravissime ce que vous dites. Vous êtes en train de nous expliquer vous êtes en train de nous expliquer que le rugby, c'est un sport de négociation avec l'arbitre. Mais c'est quoi l'histoire?
C'est pas une question de négociation. C'est une question que même à Antoine
Dupont,
tout
le monde se pose.
On a pu lui reprocher en creux la façon dont il avait pu parler à O'Keefe et donc qui a peut-être fait basculer.
Mais il a raison. Tout le monde sait qu'il a raison. Ils ont mal arbitré.
Mais non, mais c'est pas ça. Dire les choses comme ça. Sur le terrain, si peut-être que l'équipe de France n'a pas eu assez de coups de sifflet, c'est peut-être parce que la voix du capitaine n'a pas assez porté à ce moment-là. C'est ce qu'on veut dire.
Et que derrière, la voix du capitaine a été très critique envers les arbitres. Il y a eu des menaces envers O'Keefe et les arbitres l'ont mauvaise. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc maintenant, tu peux mettre Dupont et tu peux l'opposer à tous les arbitres du monde entier, mais je suis sûr qu'il en restera quelque chose.
C'est pas la voix du capitaine qui fait gagner une équipe.
Non, mais là, je te parle
vis-à-vis d'un arbitrage. Ce qui fait gagner une équipe, c'est la qualité de jeu. Avant
tout.
Je suis d'accord, mais moi, je raisonne en termes de priorité. Vous êtes en train de réduire la performance d'une équipe à la négociation et au coup de gueule qu'on peut avoir.
Je reprends la main, s'il vous plaît. Je reprends la main parce qu'il y a un super auditeur qui nous appelle et qui nous attend depuis tout à l'heure. Enfin, un super auditeur. Il s'appelle Jean-Christophe, donc j'imagine que c'est quelqu'un brillant. Salut Jean-Christophe.
Oui, bien sûr. Déjà, ce prénom, il est brillantissime. Donc, c'est normal que je sois plus
matin. C'est vrai. Il est laid. Je peux le dire. Il est pas très beau, mais il est brillantissime. Ouais, voilà. Jean-Christophe, t'es dans quel camp, toi ? Antoine Dupont a-t-il perdu son brassard ?
Non, absolument pas. Moi, je rejoins ce que dit David. Antoine Dupont, c'est quelqu'un qui a déjà un tel aura que c'est une circonstance passagère et je suis tout à fait de son avis qu'il va mener une grosse plus-value pour le 7 de France et que c'est déjà une très très bonne nouvelle pour l'Olympisme. Donc ça, quelque part, pour moi, c'est acté. Maintenant, je vais pas vous faire la ritournelle sur le rugby, ses valeurs, son collectif, mais Greg Aldrit est un joueur qui comme Antoine Dupont, ils se connaissent depuis les Crabos à Roche, c'est la gerçoise de connexion qui règne un petit peu au sein de cette équipe de France avec Bougarit qui est blessé, mais Anthony Gelon, c'est pareil. Ce sont des joueurs qui ont une superbe génération, qui se connaissent par cœur, qui sont respectés par le groupe. Il n'y a qu'à voir les performances de La Rochelle depuis que Aldrit a repris. L'équipe s'est transformée. Donc, c'est ça qui pour moi est important. C'est cet impact-là qu'ils amènent.
Mais c'est ça qui
est. Cet dynamisme, c'est ce respect. Ils sont respectés. Pour rassurer Denis, Aldrit, et de par ses origines, maîtrise parfaitement l'anglais et sera aussi un parfait relais pour assumer ce rôle.
Mais ça, on en a parlé, je suis d'accord.
Avec l'arbitrage, s'il doit y en avoir pas dans le match. Non, je suis tout à fait serein par rapport à ça. Je trouve que c'est une belle chose. En plus, 26 ans, dans 4 ans, il aura 30 ans, il sera certainement au sommet de sa forme pour la Coupe du Monde en Australie. Je trouve que c'est tout à fait logique que ce garçon-là soit aujourd'hui capitaine. Et pour moi, il n'y a pas de débat à avoir.
Mais ce n'est pas le débat aujourd'hui.
J'ai annoncé que tu étais brillant. Je suis d'accord, mais il ne faut pas répondre à côté de la question.
Oui, ce n'est pas le débat.
Personne n'a dit que Grégory Aldrit n'était pas un super capitaine pour le 15 de France.
Pour moi, j'ai dit oui, parce que le Grégory Aldrit est un très, très grand capitaine. Et la vérité, c'est que tu remplaces un très grand capitaine par un autre grand capitaine.
Et donc, parfois, c'est un débat capitaine de sélection, qui peut crisper les uns et les autres. Et si tu l'installes, c'est peut-être difficile pour Antoine Dupont de l'avoir de nouveau. C'était ça notre débat. Voilà. Attendez. Wilfried voulait apporter une précision.
Non. Enfin, juste dire que c'est David, c'est important en rugby, le management de l'arbitre. C'est le talent numéro un de l'équipe qui fait gagner, évidemment, mais il faut manager un arbitre dans un match. Il y a une relation comme ça. Et c'est vrai que
ce qui manage un arbitre, c'est ton jeu, la qualité de ton jeu.
Non, il n'y a pas que ça dans le rugby.
Si ton jeu, il est de qualité, il n'y a pas besoin de manager l'arbitre.
Mais les arbitres,
c'est un sport d'arbitre, alors c'est pas un sport de joueur.
Plus que d'autres.
Donc on ne comprend plus rien. Juste Wilfried, tu peux terminer.
Donc c'est vrai qu'il y a eu l'épisode après de sa critique de l'arbitrage en disant aux journalistes vous les trouvez bons aujourd'hui et c'est pas rien, et donc c'est pour ça que Fabien Galthié voulait certainement reprendre la main avec un homme comme Grégory Aldrit, entre autres, c'était un des arguments. Mais je pense que pour la suite, dans le débat que vous avez, Dupont, c'est un patron en équipe de France, c'est un Mbappé au foot, quoi. Donc c'est son avis importe, son jeu importe.
Bien sûr.
La seule chose qui pourrait aller dans votre sens, enfin dans ceux qui disent que on va laisser peut-être le capitaine à Grégory Aldrit, c'est si Dupont disait je polarise trop de choses en équipe de France. Souvenez-vous ce qui s'est passé avec sa blessure. Médiatiquement, ça a été la folie. Et on était là-dedans aussi. Dupont va prendre sa douche, Dupont sort, Dupont sa blessure, Dupont son œil, Dupont. Et ça a pu peut-être coûter à l'équipe de France tout ça. C'est la seule chose qui peut faire que Fabien Galthié. Mais ça serait une discussion avec Antoine Dupont.
Je ne pense pas qu'il enlève
le capitaine à Antoine Dupont sans rien lui dire. Comme ça, c'est pas.
Non, mais
pas
je finis juste par rapport à l'arbitrage. Dans l'arbitrage, par rapport à ce que pense David, la pression sur les arbitres, c'est telle aujourd'hui que tu peux pas. C'est un vrai travail qu'il faut effectuer en amont. C'est-à-dire que ce que tu dis à l'arbitre pendant le match, c'est fondamental aujourd'hui. Mais non, mais c'est vrai.
On a parfaitement compris. Pardonne-moi, Sarah, je sais que vous vouliez encore tous réagir. En tout cas, j'ai un résultat à vous donner. Antoine Dupont a-t-il perdu le brassard ? Nous sommes partis avec 67% non. 33%, oui. Bravo Christophe et Denis, vous avez gagné un petit pourcentage. 34% oui, 66% non. C'est voilà. La fin de ce bras de fer des GG. On se retrouve dans quelques instants pour la punchline. Nedim Remili sur le hand vexé après la presse. Vous l'entendrez, c'est notre punchline. Merci Wilfried Templier d'avoir été avec nous. Merci à notre auditeur Jean-Christophe. À tout de suite pour la suite des Grandes Gueules du Sport.
RMC jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h32 de retour dans les Grandes Gueules du Sport, votre émission jusqu'à midi, toujours avec notre éditorialiste Christophe Cessieux, notre judoka David Douillet, tenniswoman Sarah Pitkowski, rugbyman Denis Charvet. Dans 10 minutes, restez bien avec nous, le zapping des GG, on s'en fout pas, Adrian Manarino connaît-il l'identité de son prochain adversaire, lui qui est superstitieux, il affronte Joko, et peut-être qu'à l'heure où nous nous parlons, il ne le sait pas. Les dernières informations avec Eric Salio, ça ce sera dans 10 minutes. 11h45, les GG contre-attaquent. Mais GG, cette saison, vous le savez, vous pouvez prendre les commandes de cette émission en proposant un débat. Votre rôle, chers auditeurs, c'est de voter sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport pour votre débat préféré. Et le grand gagnant viendra exposer sa problématique à 11h45. Votre proposition, Christophe Cessieux.
Je sais maintenant pourquoi les tennismen et tenniswomen français se sont enfin mis à gagner cette semaine en Australie. Je vais vous expliquer la clé de leur réussite. C'est tout simple, vous allez voir. Personne n'y avait pensé, mais pour cela, il faut voter pour moi.
Ok, le teasing impressionnant de Christophe Cessieux. Votez pour lui si ça vous intéresse. Denis Charvet, ta proposition.
Le président de Brest qui a posé un dossier pour demander l'arrêt, l'abandon carrément de la VAR, parce qu'ils en ont marre. Ils sont mal arbitrés par la VAR. Et moi, je me pose la question. Est-ce qu'il faut arrêter la VAR?
Est-ce qu'il faut arrêter la VAR? Si ça vous convainc, votez pour Denis. David Douillet, ta proposition.
Tout simplement, je suis déçu parce que lorsqu'il y a eu la présentation de l'équipe de France de hand, Luka et Nicolas Karabatic sont fait conspuer par un groupe de supporters croates, doigts d'honneur, etc., jet de bière sur le banc. Enfin bon, bref, y a-t-il une gangrène dans le monde du sport de supporters qui ne devraient pas être là, et la violence dans les gradins est insupportable. Est-ce que on est dans une ère où maintenant ça devient systématique dans tous les sports, le foot, le hand, pas le rugby, mais...
Et c'est vrai qu'on parle surtout du foot, mais toi tu voulais mettre le coup de projecteur sur le hand également. Sarah Pitkowski, ta proposition.
Alors moi j'aimerais qu'on parle un sujet grave, de fond, qu'on prenne de la hauteur dans cette émission, parce que je voudrais vous partager un témoignage. Dimanche dernier, j'ai partagé donc une visite historique en compagnie de sportifs, dont Denis qui est là, une immersion dans un passé mondial effroyable, celui des camps de la mort à Auschwitz et à Birkenau. Et voilà, cette journée est riche en instructions, en compréhension. Alors si vous voulez comprendre pourquoi les sportifs, au même titre que la jeunesse, eh bien, peuvent être les témoins d'un devoir de mémoire, alors il va falloir voter pour mon sujet.
Parfait, allez voter sur le compte Twitter des Grandes Gueules du Sport avec ces quatre propositions. À 15h30, l'équipe de France de hand dispute son deuxième match du tournoi principal de l'Euro face à l'Islande. Grâce à leur succès face à la Croatie jeudi, les Bleus sont toujours en tête de leur groupe et donc bien placés pour se qualifier pour les demi-finales. Et pourtant, dimanche dernier, tout a failli basculer après le match nul surprise face à la Suisse. Nedim Remili n'a pas aimé la négative attitude autour des Bleus. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
Si on avait gagné ce match d'un but, tout aurait changé. Tout le monde aurait dit, ils ont la force mentale pour gagner ce genre de match, ils sont prêts, etc. Et là, on a fait match nul, on a l'impression qu'on avait fait un match pittoresque, qu'on avait joué contre une équipe de régionale Marolles. Voilà. Nous, aujourd'hui, je pense qu'on a fait un très bon boulot. On aurait pu mieux faire, évidemment, on aurait pu gagner. On peut battre tout le monde de 10 buts aussi, si on vous écoute.
Si on vous écoute, banalise-t-on les performances du hand français? Oui ou non, Christophe Cessieux?
Non.
Sarah Pitkowski?
Si.
David Douillet?
Non.
Denis Charvet?
Oui.
Vous n'êtes pas d'accord. Avant de débattre, Nicolas Paul Orsi, notre envoyé spécial en Allemagne, est avec nous. Bonjour Nicolas.
Salut les GG, salut à tous.
Alors toi qui fais partie des suiveurs, donc de la mauvaise presse, les Bleus ont-ils été vraiment vexés?
Je sais pas si on peut dire vexé, mais en tout cas, ça les interpelle parce qu'on a la sensation qu'on s'intéresse au handball français qu'à partir des demi-finales, souvent, voire de la finale, même s'ils ne gagnent pas et qu'ils prennent la médaille d'argent, on peut entendre que c'est une contre-performance. Il y a moins d'indulgence avec le hand français qu'avec les autres sports co. C'est ce que ressentent un petit peu les joueurs. Et ça, c'est parce qu'ils ont déjà tout gagné. Et quand tu gagnes, on dit souvent au hand qu'il n'y a que deux grosses nations, que c'est facile de gagner. Alors cet a priori-là, il est complètement faux. Je peux déjà vous citer 6-7 pays qui, sur le papier, peuvent remporter un titre. Je pense que c'est à peu près pareil au rugby. Denis pourra me confirmer. Pour gagner un titre sur des mondiaux ou des Jeux Olympiques, quand on est handballeur, il y a 4 gros matchs à gagner. C'est exactement comme les rugbyman ou les basketteurs sur une compète. Donc, ce n'est pas plus facile de gagner au hand. Ça, c'est la première chose. Si les Bleus vont au bout de 7 euros, ils auront joué 9 matchs en 20 jours, enchaînés, toutes les 48 heures, 9 matchs de très haut niveau, hein, avec des sélections composées quasiment de joueurs qui jouent la Ligue des Champions. C'est un rythme inhumain pour un sport de duel, de combat. Il y a de grandes nations du hand comme l'Espagne qui n'ont même pas passé le tour préliminaire, par exemple, dans cet euro. Donc oui, gagner chaque match, c'est extrêmement difficile, même quand t'es la France. Éteindre les Allemands, ce qu'ils ont fait cette semaine, après ce match nul contre la Suisse, devant 15 000 supporters, c'est énorme. Battre la Croatie 2 jours après le combat contre l'Allemagne, après avoir voyagé pendant 6 heures pour changer de ville, c'est énorme. Donc oui, banalise un petit peu les perfs du hand français parce que pour nous c'est devenu une normalité de les voir gagner, de les voir en finale. Oui. Sauf que c'est jamais normal d'accumuler autant de bons résultats, d'être aussi régulier tous les ans, et il faut pas minimiser ces victoires, même quand on parle de match de poule.
Ok, le plaidoyer de Nicolas Palancy.
Ah ben là, comme ça, on ne peut pas le critiquer. Ouais. Nico, il travaille dans le bon sens. Hein.
Bah, vas-y, Christophe.
Il va pouvoir faire des bonnes interviews aujourd'hui.
Pourquoi on banalise pas ?
Je pense pas qu'on banalise. C'est vrai qu'ils nous ont mal habitués. Depuis 1992, on a tellement pris l'habitude de les voir gagner avec des générations qui sont succédées les unes aux autres, les bronzés, les barjots, les experts. Ils ont roulé sur le monde du hand depuis les années 90. Et forcément, aujourd'hui, quand tu as un résultat un peu moins bon, tu te demandes, mais quoi? Qu'est-ce que c'est? Quoi? La Suisse?
On peut perdre dans ce
la
sport?
La Suisse? Nous, on fait match nul contre la Suisse. Et d'un seul coup, nous qui sommes à moitié endormis, on attend éventuellement la demi-finale ou la finale pour ouvrir un œil, pour voir, oh, ils sont forts, nos handballeurs.
Ça veut dire qu'on banalise tout le parcours et qu'on a tellement d'habitude de les voir au bout. T'es en train de faire l'argumentaire pour nous, la Christophe.
C'est pas grave, c'est pas grave. Je m'en fous de répondre aux questions.
Il répond plus.
Christophe, te laisse pas déstabiliser. Ne te laisse pas déstabiliser. Continue. T'es bien parti.
Quel naufrage.
Je pense que c'est le propre des grandes équipes. C'est exactement la même chose qui concernant les Bleus Deschamps et Galtier. Ces équipes sont considérées parmi les meilleures au monde et on s'attend
donc
à les voir gagner quasiment tout le monde. Elles ont un devoir de résultat. Donc, s'ils râlent. C'est aussi la fameuse ficelle. Hein, regardez le monde entier contre nous. On n'est pas bon, on n'a pas été bon, on joue des matchs pittoresques. Bah oui, la Suisse en hand, c'est un match pittoresque. Il faut bien le dire. C'est pas le Danemark, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Espagne. Donc voilà, il fait ça. Et puis
c'est
d'habitude, ce sont plutôt les coachs qui tirent ce genre de ficelle. Et derrière, ça marche puisque l'équipe de France derrière a réussi un match face à l'Allemagne.
C'est pas qu'ils râlent, c'est l'orgueil du champion, tout simplement. C'est les mecs, je pense qu'ils vont pas l'avouer, mais ils sont presque humiliés de faire un match nul contre la Suisse, tout simplement, parce que c'est les grands champions. Mais si, au fond d'eux-mêmes, j'en suis sûr. Non. Mais banaliser, ça va pas dire les critiquer quand même. Moi, c'est pour répondre au débat. Évidemment qu'on a banalisé parce que c'est eux qui nous ont amenés dans cette posture. Qu'est-ce que tu veux quand tu gagnes tout le temps, tu te dis c'est impossible que maintenant il va faire un match nul contre la Suisse ou même qu'il puisse perdre contre la Suisse.
6 fois champion du monde, 3 fois champion olympique, 3 fois champion d'Europe.
Mais c'est extraordinaire. La génération du hand, c'est extraordinaire. Donc ça vaut, Christophe, aussi pour les grands champions. C'est la même chose. On n'attend pas Djoko perdre dans un tournoi comme Nadal ou comme Federer à l'époque. C'est comme ça.
C'est leur statut, il faut l'assumer.
C'est tout.
Vous êtes tous frappés d'amnésie. Vous avez oublié ce qu'est le sport de haut niveau. Le sport de haut niveau, c'est tout simple. Tout le monde peut battre tout le monde tout le temps. Et c'est extrêmement difficile d'être, de, de, de se mettre en route face à un adversaire qui est un peu moins fort que vous.
Mais toi, si tu étais encore sur les tatamis, tu mettrais des roustes arrières tous les week-ends, David.
Non, c'est merci, Christophe, c'est gentil.
C'est possible. T'es pas obligé de répondre. Hein.
Non, mais enfin, tout le monde sait, chacun sait que dans une confrontation, dans un duel, et c'est un duel, un match comme celui-là, tu t'appuies sur ton adversaire pour te sublimer. Bon, quand t'as un adversaire qui est un peu plus faible que toi, bah l'appui il est moins fort, donc tu vas un peu moins haut, donc t'es moins sublime, donc tu patouilles, tu voilà, t'as peut-être un manque de motivation, etc., etc. Voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire de la compétition qui est comme ça. Voilà, c'est sur un adversaire qui est un peu plus compliqué parce que il est plus faible que toi, bah ton jeu, t'as du mal à le mettre en place, voilà, il y a plein d'explications. Donc ne méconnaître ça et se dire voilà, parce que c'est l'équipe de France, ils ont eu des résultats exceptionnels et c'est vrai, c'est l'une des nations les plus brillantes au monde, faire parce qu'il y a un accro sur un pays comme la Suisse qui peut-être progresse, qui peut-être demain ou après-demain fera partie des 5 premières nations du monde en ronde, ça devient quelque chose de ouais bah
c'est, et on a le droit, c'est pas les critiques que de, okay. de banaliser.
Sarah. Vas-y,
Fitam. C'est injuste. Je trouve que c'est injuste parce que c'est mépriser la compétition un petit peu ce que vous faites.
Sarah Pitkowski.
Je pense effectivement qu'avec le palmarès de cette équipe de France de hand, qui est donc le plus riche de toutes nos équipes de France de sport collectif, hein, et puis on le répète, les premiers en 95 à prendre un titre de champion du monde. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire banal? Banal, ça veut dire quelque chose d'ordinaire, de récurrent. Et en fait, cette équipe de France...
Elle ne permet pas l'ordinaire.
Elle gagne tellement que c'est devenu quasiment ordinaire. Et donc, l'attente collective, on ne remet pas en cause la grande incertitude du sport, mais les attentes collectives qu'on a. Parce que quand tu es sur le terrain, tu sais effectivement que l'attente collective, c'est pas ce qui va te faire gagner. Mais l'attente collective, l'attente collective, le jugement des médias, le jugement, le traitement généraliste.
Et on est là pour informer les gens que c'est pas évident de gagner sur une équipe qui a.
Oui, mais enfin, sur 65 millions, on n'est pas 65 millions de journalistes et on n'est pas 65 millions de sportifs. L'attente collective fait que.
On est quatre experts qui sommes là pour expliquer ça aux gens.
Mais moi, je me place dans le fait qu'aujourd'hui, c'est tellement banal qu'effectivement, quand il y a un petit accro, on se dit, comment ça se fait, quoi. Donc, je comprends que le sportif se dise, mais attendez, vous vous rendez pas compte pour gagner autant l'effort que ça, ça demande.
On peut pas être à sa place.
Mais on banalise les résultats de notre équipe de France de handball.
Oui, mais juste pour dire aussi qu'ils n'ont pas été extrêmement critiqués après ce match nul face à la Suisse. On savait qu'ils
n'en avaient pas. Mais c'était pas la question que tu nous posais.
Non, mais je préfère le dire pour les joueurs aussi. Parfois, on fait des montagnes de choses alors que cette équipe de France a toujours quand même globalement été soutenue. Bref, Nicolas Paolorsi, merci d'avoir été avec nous. 15h30, France, Islande, et tu seras là pour suivre cette rencontre avec nous.
C'est banal comme match ou pas?
À tout à l'heure.
Bien sûr que non. C'est jamais banal avec le.
Les Islandais qui nous ont éliminés justement ce même stade de la compétition il y a 2 ans, me semble-t-il, à l'Euro.
Ouais, une défaite qui est restée en travers de la gorge de plusieurs Français. Voilà. On en reparlera tout à l'heure, mais il y a pas mal d'histoires autour des Français.
On l'attend. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour le zapping des GG. Adrien Manarino connaît-il l'identité de son adversaire pour son 8e de finale? Nous, on peut le dire. C'est Djoko, Adrien. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h48, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre émission le samedi, le dimanche de 9h30 à midi. Restez bien avec nous. À partir de 11h, nous parlons de la nouvelle star. Enfin, vous devrez répondre à cette question. Cyprien Sarrazin est-il devenu une star? Lui qui a remporté hier la descente de Kitzbühel. Il est absolument incroyable en ce moment. Restez bien avec nous. Toujours avec Christophe Cessieux, David Douillet, Sarah Pitkowski, Denis Charvet. Tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, Adrien Manarino, sait-il qu'il va affronter Novak Djokovic en 8e de finale de l'Open d'Australie? On s'en fout, on s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Tu nous poses une question?
Mais oui.
Est-ce qu'il le sait?
Moi, c'est mon accroche. On s'en fout, on s'en fout pas.
Oui. Ah non, on s'en fout pas.
Voilà.
Nous raconter
comme d'habitude. C'est rapide comme
ça. On s'en fout pas.
David Douillet.
Ouais, je m'en fous.
Denis Charvet.
On s'en fout pas.
C'est une habitude désormais connue. Superstitieux, Adrian Manarino ne veut jamais connaître l'identité de son prochain adversaire jusqu'à quelques minutes avant d'entrer sur le court, ce qui demande évidemment une gymnastique et des précautions assez hallucinantes, surtout quand le prochain adversaire d'Adrian Manarino, c'est la nuit prochaine, eh bien, elle se nomme Novak Djokovic. On retrouve en direct de Melbourne Eric Salio. Eric, est-ce qu'il sait à l'heure où nous nous parlons?
Ah, normalement, non. Normalement, non, parce qu'il est bien organisé. Ah non, mais je te promets ça, je vais te raconter une scène.
Sérieux ?
Mais raconte-nous.
Alors, il y avait sa conf de presse d'après-victoire contre Ben Shelton. Il était minuit. Il y avait des journalistes serbes qui étaient dans la salle. Parce qu'évidemment, ils voulaient avoir l'avis de Mana sur Lord Djoko. Mana demande à la modératrice, il est pas venu dans la salle encore, il est dans l'antichambre, il demande à la modératrice, surtout, tu lui répètes toujours la même chose, elle est française, hein, tu leur dis au mec, je veux pas connaître mon adversaire. La nana dit en anglais, évidemment, aucune question sur son futur adversaire, il refuse de connaître. Les journalistes serbes, ils la regardent, hallucinés, mais c'est une joke, vous déconnez ou quoi? Non, non, il dit, confirme. Les mecs se regardent et quittent la salle. Voilà, ça c'est pas. Il ne le sait pas.
Mais non.
Et là, mais je te jure, Sarah, mais je vais te raconter.
Vas-y, raconte-nous parce qu'il bloque les réseaux sociaux et tout ça. Il veut vraiment rien savoir. Hein.
Tous ses proches sont au courant. L'an passé à l'US Open, il joue Tiafoe et il perd. Et après en conf, je lui demande comment t'as vécu la journée. Mais il me dit j'étais sûr que je jouerais Tommy Paul. Et puis je vois que Tommy Paul, à un moment dans la journée, il va sur le court avec Davidovic. On m'avait demandé si je voulais avoir un patch, tu sais, sur mon épaule, sur ma chemisette, parce que ça rapporte de l'argent. Donc j'en déduis que je vais jouer sur un gros court. Et puis à un moment, je vois Tiafoe qui est tout seul. Je dis ah, il est pour moi. Et il a su que c'était Tiafoe, son adversaire. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. Alors la seule gaffe, peut-être. Mais j'étais pas sur place. Il s'est entraîné aujourd'hui. Forcément, il a tapé peut-être un quart d'heure. Et il y a peut-être un mec qui lui a dit « Good luck for Djoko ». Mais j'étais pas présent. Est-ce que la scène a existé? Je ne sais pas.
Juste une précision et après, Sarah, tu pourras nous dire ce que t'en penses. Manarino, dans l'équipe en 2020, voici comment il le justifie. « Quand je le sais à l'avance, ça m'épuise un peu dans ma tête. J'ai tendance à jouer le match avant d'entrer sur le court. Ça m'arrive de croiser des joueurs qui me disent « Tu joues contre lui » parce qu'ils ne font pas attention et généralement, je perds. » Vas-y, Sarah.
Oui, alors Il n'étudie pas le tableau, c'est-à-dire il va pas regarder s'il est en haut, il est en bas, mais je comprends que dans l'esprit, il ne veut pas connaître son adversaire, parce qu'il dit effectivement, comme ça, j'ai un point en moins, je me concentre sur moi et je suis moins sur l'autre, effectivement, je fais pas le match avant. Mais plus tu avances dans un tournoi, plus il y a une forme d'entonnoir et tu as quand même beaucoup moins de joueurs et de joueuses dans le Player Lounge, donc forcément... par déduction,
Son enquête, oui. Il se fait sa propre enquête, il le sait pas,
c'est-à-dire qu'il étudie pas le tableau, mais c'est difficile aujourd'hui de te couper du monde, mais il ne se projette pas effectivement d'en jouer un adversaire.
Mais t'imagines si vraiment il ne le sait pas, il arrive sur le court comme ça.
Et puis là, tiens.
son coach lui dit on gira une demi-heure avant. Il dit voilà, c'est Djoko.
Oui, parce que il faut.
Mais c'est bien parce que souvent on se dit, on a déjà d'ailleurs eu ce débat, pardonnez-moi, dans les GG, en se disant mais quand même tu te prépares un minimum sur les coups forts, les coups, les défauts de ton adversaire, c'est important.
Ouais, c'est un peu pareil. Je veux pas savoir qui a comme grande gueule le matin.
Il a 35 ans, il connaît tous ses adversaires par cœur.
Bien sûr.
Donc c'est pas le.
Ok, donc ça sert pas à grand chose.
Non, rien.
Ok, bon voilà pour l'anecdote. En tout cas, merci.
C'est sûr, oui. De savoir qui va être en face de lui.
On reparlera demain de ce match, ce huitième de finale qui a lieu aux alentours de 3h-4h du matin. C'est bien ça, Eric?
C'est ça, c'est la deuxième rotation de la Rod Laver Arena et ça va bousculer les habitudes de Djokovic parce qu'il avait joué ses 15 derniers matchs en night session.
Parfait.
C'est un atout pour Mana.
Je rappelle, en tout cas, je rappelle, c'est bien, il faut se réconforter comme on peut. Je rappelle qu'il y a trois Français en huitième de finale, on en a parlé à 9h30. Deuxième information dans le zapping des GG, c'est Lyon qui se qualifie dans la douleur face à Bergerac en Coupe de France, 16e de finale. Donc Lyon qualifie pour les huitièmes. On s'en fout pas, Christophe Cessieux.
Je m'en fous.
Tu t'en fous, très bien. Denis Charvet.
Je m'en fous.
Tu t'en fous, ok.
Je m'en fous.
Ok. David Douillet, c'est un grand chelem.
Moi, je m'en fous vraiment.
Ok, bon, bah, on passe l'information, évidemment. Allez voir ça sur rmcsport.fr. La troisième à vous donner, c'est encore raté pour Sébastien Loeb au Dakar. On s'en fout pas. Christophe Cessieux.
Je m'en fous pas.
David Douillet.
Moi non plus.
Ouais, je m'en fous pas.
Denis.
On fout complètement.
Encore raté. Oh. Donc, Sébastien Loeb a terminé la dernière étape du Dakar en tête. Sa troisième victoire d'étape cette année. Il termine l'épreuve à la troisième place sur le podium, donc du classement général. La faute à cinq crevaisons. Un incident mécanique qui lui ont coûté plus d'une heure sur le vainqueur Carlos Sainz. Un nouvel échec pour le nonuple champion WRC qui voit encore lui échapper la course qu'il convoite depuis 8 ans. Oui. Réaction de Sébastien Loeb après la course.
On savait cette année en arrivant aussi que on est revenu avec la même voiture que l'an dernier, donc pas d'évolution parce que avec l'équipe on est déjà tourné vers le futur avec la préparation de la Dacia. On connaissait nos points faibles, les biellettes, les triangles, tout ça. On sait qu'elle est un petit peu trop fragile, elle est perfo, elle est top à conduire. Par contre, on n'a pas droit à l'erreur, la moindre pierre qu'on tape, le moindre trou qu'on passe un peu trop vite, on casse. Bon, c'est partie remise, il va falloir recommencer l'an prochain. On a presque tout ce qu'il faut pour gagner, il faut juste encore une fois réussir à tout mettre bout à bout et on l'a pas fait.
Allez. Sébastien Loeb qui se projette. Christophe Cessieux.
Non, mais il a tout dit. C'est-à-dire que ça, si tu veux gagner le Dakar, faut avoir une voiture solide. T'as beau être le plus rapide, et on l'a vu régulièrement dans ce Dakar, il a gagné plusieurs spéciales, mais malheureusement, il a cassé la voiture à deux reprises, notamment avant-hier là dans les caillasses. Ça a été un enfer pour lui. Il perd une heure. Heureusement qu'il a un de ses équipiers qui arrive et qui lui file la pièce qui lui permet de pas abandonner le Dakar. Mais voilà, il suffit pas d'être le meilleur pilote du monde, d'être le plus rapide dans cette épreuve. Il faut avoir du matériel solide, il faut être allemand, il faut s'appeler Audi pour gagner ce genre de...
Non mais il en a déjà eu des voitures. Il en a déjà eu des voitures qui ont... Ça fait 8 ans qu'il essaye.
Après, les premières années... Il a commencé à apprendre le
métier. Les premières années, effectivement, je crois qu'il termine 9e ou 10e, il venait pour prendre ses marques, mais s'il vient sur le Dakar, c'est pour le gagner. Et ça commence à devenir frustrant parce que là, c'est une histoire de voiture, mais les années précédentes, il a une mafre. Mais pas possible, quoi. C'est invraisemblable. C'est un excellent pilote. Tu peux lui donner une super voiture, il en a déjà eu. Pour l'instant, ça ne l'a pas fait. Voilà.
Ça ne l'a pas fait et forcément, on donne rendez-vous à Sébastien Loeb l'année prochaine. 10 secondes vraiment, David.
Non, mais quand tu cours après un truc, peut-être que tu prends un peu plus de risques. Et là, je ne parle que des crevaisons. Voilà, c'est un petit peu le résultat. Il a voulu pousser. Et c'est normal, hein, il est dans la compète et ça casse. Quoi. C'est un peu, ça passe ou ça casse et ça a cassé.
Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Cyprien Sarrazin est-il devenu une star ? Vous n'êtes pas d'accord, les GG ? À tout de suite sur RMC.